They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعداداً.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆加，
正忙着切切切切切
切切
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à 11h50, dernier volet de notre série consacrée à la COP21 en direct du Bourget où on a posé nos micros à l'ouverture de ce grand sommet mondial. Où en est-on aujourd'hui dans le calendrier? Quels sont encore les obstacles à surmonter? Peut-on être optimiste et encore espérer le fameux accord universel, différencié et contraignant que François Hollande appelait de ses voeux en ouverture lundi dernier? La tension monte, monte, monte. À mesure que la fin du sommet se rapproche. Hier, les discussions se sont considérablement tendues et les progrès semblent très insuffisants. Nombre de points restent en suspens, plus de 1000 expressions entre crochets, des options, plus de 250 options encore ouvertes, autant de points de blocage qu'il va falloir lever. Ce matin, la dernière version du brouillon contenait encore quelques incertitudes, beaucoup d'incertitudes. Pourtant, il va falloir accélérer puisqu'un texte d'étape doit être récupéré dans les prochaines heures. Ce sera demain exactement à midi que Laurent Fabius récupérera justement ce texte et il disait son inquiétude.
Mon message est tout à fait clair. Il faut accélérer le processus parce qu'il nous reste beaucoup de travail. Des formules de compromis doivent être dégagées le plus rapidement possible. Les chefs d'État et de gouvernement nous ont donné lundi un mandat sans ambiguïté. Nous devons réussir et prendre les dispositions pour réussir.
Voilà, nous devons réussir, nous devons prendre les dispositions pour réussir, hein, Laurent Fabius. Calme, serein, mais qui clairement explique qu'il va falloir accélérer les choses. Ce matin, une nouvelle version donc du texte intermédiaire a été présentée. C'était à 10h tout juste, à peine une heure. On a là le brouillon du texte. On a aussi un document qui rassemble les propositions de compromis des facilitateurs. On va évidemment encore discuter toute la journée avant de le soumettre à la présidence française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la lenteur des négociations? Voilà la grande question qu'on va évoquer ce matin. Comme chaque vendredi, avec nous, un journaliste de Libération. Aujourd'hui, Isabelle Anne, qui couvre la COP21. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Stéphane Écoute, sociologue, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez également cette COP, mais vous en avez suivi d'autres, notamment à Copenhague. Avec nous également, Céline Affo, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous porte-parole de l'Afrique et la COP21. Et Jean Jouzel, merci d'être bonjour. Avec nous. Bonjour à vous. Vice-président du GIEC, membre de la délégation française à la COP21. D'ailleurs, on devait ouvrir lundi avec vous et malheureusement, puisque le discours est exactement en même temps que l'émission, on n'a pas pu le faire. Si vous étiez passé, Jean Jouzel, mais certainement vous avez ressenti un peu les mêmes choses lundi, vous auriez senti chez nous un véritable optimisme. On a tous dit, voilà, c'est un formidable sommet historique, quelle impulsion politique incroyable. Aujourd'hui, en fin de semaine, c'est un peu différent. On sent que les discussions...
Terre, peut-être.
Oui, hein, le ton est quand même beaucoup plus à l'inquiétude aujourd'hui, Jean Jouzel. Hein.
Oui, mais bon, Stéphane, qui est un historien de ces COP, moi j'en ai fait 15, je pense que ça va au rythme normal des COP. Alors celle-ci est plus importante que les autres, alors on aimerait bien que ça aille plus vite que les autres. Effectivement, il n'y a pas encore péril dans la demeure, mais il faut que, et c'est ce que Laurent Fabius a dit, disons que les négociateurs accélèrent. Moi-même, je ne suis pas négociateur, mais je les côtoie, évidemment. On essaye d'apporter...
Vous leur parlez, vous avez de la chance. Parler,
bien
sûr,
c'est
difficile. Hein.
Oui, c'est difficile.
Je vous le dis, j'ai essayé.
Oui, voilà. Mais hier, enfin, je n'ai pas vu ce matin, je n'ai pas lu le texte encore, mais hier, Laurence Tubiana, Paul McKinson restait tout à fait optimiste. Enfin, disons optimiste. Ouais. C'est difficile, c'est clair, mais ça, on le savait aussi. Hein.
J'ai passé le draft à Céline Affo, qui est déjà en train de noter plein de choses dessus. Vous, Stéphane Écoute, qui avez vécu d'autres sommets, vous n'êtes pas inquiet non plus? Puis, il y a peut-être une différence, parce que, pardon, faut préciser pour les auditeurs. Là, aujourd'hui, sont tombés deux documents, en réalité. Il y a le brouillon, disons, et puis il y a un document avec les différentes propositions de compromis des facilitateurs. On avait eu la même chose à Copenhague.
Sauf oui, absolument. Il y a quelque chose de l'ordre de dramaturgie des COP et il y a quelque chose qui se passe toujours comme ça. Ça veut dire il y a une première semaine qui est plutôt une semaine technique et il y a une deuxième semaine où les choses politiques vraiment vont être mises sur la table. Aujourd'hui, les délégations n'ont pas vraiment le mandat de faire des vrais compromis. Donc l'enjeu, c'est de clarifier les options, c'est de clarifier où sont les lignes rouges et ensuite... La négociation réelle va commencer avec l'arrivée des ministres et donc lundi.
Mais c'est une bonne idée d'avoir deux documents ? Travailler sur deux documents ?
C'est une bonne idée. Il y a une chose qui est différente quand même et que la présidence française, à laquelle la présidence française fait très attention, c'est que c'est ce qui s'était passé à Copenhague, c'est qu'au milieu de la COP, quand les choses se sont corsées, la présidence danoise a mis un document de compromis, qu'elle disait de compromis, mais qui au fait était un document qui était concerté avec les États-Unis surtout.
Ouais, c'était et donc, les pays riches en gros qui l'avaient fait dans leur coin. Donc, là, la différence, c'est qu'il a été élaboré avec tout le monde quand même.
Exactement, qui a braqué tous les pays en développement. Et donc aujourd'hui, la démarche est décidément très inclusive. C'est ça en tout cas ce qui est dit et ce qui est fait.
C'est Nina Faux, et puis je vous passe la parole, Isabelle Anne. C'est Nina Faux, vous qui êtes porte-parole de l'Afrique, vous êtes en train là de regarder le draft, j'ai vu que vous aviez déjà écrit plein de choses dessus. Quelle impression il vous donne ce document?
Non, comme disait Stéphane, c'est ça. Comme disait Stéphane, nous sommes exactement dans les temps.
Le mandat... C'est pas ce que disait Laurent Fabius.
Non, c'est son rôle.
Exactement, c'est son rôle de vouloir accélérer, c'est son rôle de vouloir faire avancer aussi loin que possible les négociateurs, les techniciens. Les techniciens ont un mandat, ils ont un mandat et ont très peu de marge de manœuvre. C'est ce que disait Stéphane. Ceux qui peuvent faire le mieux pour leur ministre, c'est de faire deux choses. Premièrement, présenter des options claires. Deuxièmement...
Ah ben elles sont claires, mais très nombreuses. Hein.
Deuxièmement, quand ils le peuvent, identifier déjà une zone de compromis. Donc, par exemple, dans un texte, vous avez une option, disons, pour faire simple, pays développé, une option pays en développement et une troisième option médiane. Tous n'y sont pas arrivés. Certains sont arrivés, certains n'y sont pas encore. Et tout le but de faire venir, de faire deux choses. Le deuxième document qui est, il a été demandé hier, et le G77 et la Chine, la présidence sud-africaine a demandé, que les co-facilitateurs qui connaissent le mieux, qui sont au plus près non seulement du texte, mais qui ont tout le contexte de leur la négociation qu'ils facilitent, eux-mêmes identifient ces options, ces zones que les négociateurs ne sont pas arrivés à faire. Pour que quand le niveau ministériel arrive, il puisse avoir un maximum d'éléments pour que les choses s'accélèrent.
Donc il va être en capacité de le faire. Demain à midi, quand on va récupérer le texte, on va être en capacité de faire intervenir les politiques, les différents ministres pour faire réellement avancer les choses.
Ils auront au moins un outil. Premièrement, ils auront un outil de travail. Deuxièmement, on a fait une grande répétition à Paris à la pré-COP. Le texte n'a pas énormément changé. Les mêmes éléments, les cinq éléments identifiés à Paris il y a quelques semaines sont les mêmes éléments. Donc les ministres arrive également avec cette petite répétition qui a été faite, ou cette grande répétition.
On va revenir évidemment en détail sur les différents points de blocage. Isabelle Anne.
Non, je voulais juste préciser que contrairement à Copenhague, là ils l'ont bien précisé d'ailleurs hier les co-facilitateurs, les co-présidents pardon des débats, il ne s'agit pas d'un texte tombé du ciel. C'est les positions de compromis sont les positions qui ont émergé lors des discussions en ce qui s'appelle les spin-off ici, donc les petits groupes. Mais c'est pas quelque chose qui a été fait dans les coulisses par les grandes puissances. Voilà. Après, c'est vrai que cette semaine, c'est visiblement une semaine avec la chorégraphie habituelle des négociations. On montre les muscles, on ne abat pas toutes ces cartes parce qu'effectivement, les négociateurs sont un peu obligés d'avoir des positions un petit peu conservatrices, notamment parce qu'ils attendent que les ministres prennent la main la semaine prochaine et qui eux pourront faire de vrais arbitrages politiques.
Pas dans les coulisses, Jean Jouzel, quand même, est-ce qu'on n'a pas un problème de méthode de travail? Est-ce qu'on n'a pas un problème de transparence? Parce que il faut savoir, on va expliquer un petit peu pour les auditeurs. À la COP21, on a en gros les séances plénières, qui portent de jolis noms de fleuves, Seine, Loire, Garonne. Les journalistes du monde entier scrutent les écrans partout installés dans le parc des expositions. On y voit parfois nos diplomates se mettre à la tribune et puis valider un certain nombre de mesures, celles auxquelles aucune des 196 partis ne s'opposent. Et puis, il y a les petits groupes de travail, donc les sous-groupes informels, spin-off groups, qui travaillent sur des toutes petites questions extrêmement précises, extrêmement techniques. Et puis les groupes de contact, qui ont la charge de rassembler, eux, les différents éléments qui sont évoqués dans ces fameux sous-groupes. Et c'est ce dispositif.
Il y a quoi encore? Il y a les informels, informels.
Il y a les informels, informels,
voilà. Donc j'en oublie.
Mais
ce que je veux dire, c'est que c'est dans
ce
dispositif-là, dans l'ombre, dans des espaces auxquels les observateurs, les journalistes n'ont absolument pas accès. Moi, j'ai essayé d'y aller, j'ai pas réussi. On essaye de s'accorder là-dedans. Et là, c'est là, au fond, que les choses se jouent. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme problème de transparence? Parce qu'en réalité, dans ces espaces-là, la pression politique, elle s'exerce pas du tout.
Oui, mais je pense que
est-ce qu'on est dans les conditions d'émergence d'un consensus dans cette dans ces espaces-là.
Oui, parce qu'on on opère un peu pareil pour le GIEC. Si on n'a pas ces groupes de contact et disons cette confiance qui s'établit entre les négociateurs de différents pays, rien ne se passe non plus. Donc il faut, je dirais oui, qu'une certaine confiance, dans certains cas une certaine amitié entre les gens se crée. Ces négociateurs ont aussi une histoire pour beaucoup, bon pas tous, mais des gens ont beaucoup de... Donc je crois que c'est nécessaire d'avoir ces petits groupes de discussion. Ce qui est important, c'est que ces petits groupes de discussion soient vraiment représentatifs de la diversité des intérêts. C'est ça qui est important. Moi, je ne reprocherais pas d'avoir un processus en différentes étapes. Mais effectivement, si simplement les États-Unis sont dans un groupe de discussion, ça ne peut rien dire. Si on met États-Unis, Allemagne et Japon, donc voilà le problème. Le problème n'est pas...
C'est l'idée d'info.
Dans ce chaos, dans ce semblant, c'est un semblant de chaos, il y a un ordre et il y a un ordre qui je veux dire, c'est assez sophistiqué, mais il y a de la discipline. Le groupe de contact, c'est une plénière qui rassemble les 196 parties sur la négociation. Donc ça, il y a un groupe de contact sur la plateforme de Durban, donc ça rassemble tout le monde. Ensuite, les fameux informels, il y a maintenant une division par thème. Ensuite, dans la division par thème, à un moment, il faut proposer des libellés, il faut proposer un langage, on travaille ensemble. Là, on arrive maintenant en informel. Et dans tout le dispositif, les groupes sont représentés. On est 196 parties, mais en gros, il y a peut-être une dizaine de groupes de négociation. Les pays donnent mandat à leurs coordinateurs. Les pays en développement, il y a peut-être 5, 6, 7 groupes qui donnent mandat à leurs négociateurs. Donc quand vous vous retrouvez par exemple en informel, peut-être autour de la table, il y a peut-être 20 négociateurs, mais ces 20 négociateurs viennent avec un mandat. D'accord, et font remonter l'information.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on est dans un cadre où on peut faire émerger un consensus. Alors qu'on a par exemple le délégué de la Norvège qui nous dit, qui lui remet en cause le processus des négociations, qui estime que sur certains sujets, les discussions ont carrément reculé. On ne dit même pas qu'on a avancé, il dit qu'on a reculé.
Oui, ça arrive, c'est toujours le risque. Je vais prendre par exemple un des sujets sur lequel moi je travaille.
Allez-y.
Nous sommes déjà arrivés à des options de compromis. L'axe de travail numéro 2 de la plateforme de Durban, c'est ce qu'on appelle l'ambition après 2020. Pour faire très simple, l'accord rentre en vigueur après 2020, donc il est appelé post-2020. Et il y a un autre axe de travail, un autre espace de travail qui essaye de voir comment on peut augmenter les efforts de maintenant à 2020. Dans ce texte-là, il y avait deux sections avec des options. Dans toutes ces deux sections au jour d'aujourd'hui, il y a une option de compromis qui commence à se dessiner. Mais bien sûr, il y a 40 ou 50 négociations. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde travaille un peu en silo. C'est pour ça que je regarde un peu ce que les collègues ont fait, parce que tout ça a été compilé. Mais ça, c'est normal. Mais dynamiques, ça a avancé.
Stéphane, écoute.
Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ces négociations, ils ne sont pas coupés du monde. Donc il y a toujours un enjeu pour les négociateurs.
Ah bon, ils sont pas coupés
du monde.
Évidemment,
mais il y a un côté théâtral des négociations, et surtout au fait quand la société civile regarde, quand tout le monde regarde, et donc c'est à ce moment-là très souvent qu'on va avoir des grands discours, qu'on va avoir des prises de position de principe. Et donc c'est aussi pour ça, et je plaide pas pour moins de transparence, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des groupes plutôt informels où finalement on peut se mettre à travailler plus spécifiquement, et où, comme il n'y a pas ce regard extérieur, certaines délégations pourront faire des compromis qu'ils ne pourront pas faire.
Ou pas d'ailleurs.
C'est à double tranchant,
mais c'est normal, à un moment il faut travailler. À un moment, il faut que la position soit articulée. Donc, ça arrive. Voilà.
J'avais envie d'intervenir pour redire, du point de vue plus scientifique, l'importance du prêt 2020. C'est justement parce que c'est essentiel. Si vous voulez, si rien n'était fait d'ici 2020 pour, disons, en tout cas, atténuer l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les infléchir, eh bien, nous irions, même si nous étions très vertueux après 2020, vers 3 degrés. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'attache...
Déjà le cas quand on regarde les INDC en réalité, parce que, voilà, une des différences aussi, on a dit, formidable, à Paris, tout le monde arrive, ou quasiment tout le monde, avec ses engagements volontaires. Or, ils sont pas du tout dans les 2 degrés. Les engagements, par ailleurs, on n'a pas du tout encore mis les mécanismes de contrôle qui vont nous permettre de nous assurer que les uns et les autres respectent bien les engagements qu'ils ont pris. Regardez la Chine. Hier, les Chinois ont dit très très clairement, il est hors de question qu'on ait un système intrusif qui vienne vérifier quoi que ce soit dans nos propres émissions de gaz à effet de serre. On n'y est pas. C'est-à-dire, même ces INDC dont on disait avant de commencer, c'est formidable.
On fait un mauvais procès. Il y a deux choses. On fait un mauvais procès aux INDC. Les INDC, c'est historique. C'est la première fois dans l'histoire de cette négociation où les pays en développement acceptent de s'engager, déjà voilà, de s'engager et sont prêts à considérer que leurs engagements.
Mais les engagements, c'est bien, mais si on ne contrôle pas, si on n'est pas en capacité de contrôler qu'effectivement ils sont tenus.
Nous sommes en capacité de contrôle. Il existe déjà un processus qui permet de contrôler, qui est une revue, mais une revue où les experts ne se déplacent pas dans le pays. C'est-à-dire que les pays en développement font un rapport, le rapport arrive à la commission, il y a une revue sur table, on a voilà desk review en anglais, il y a une revue qui se fait, il y a une consultation internationale qui se fait. Donc, faut pas dire qu'il y a pas de revue.
Non, je le dis juste, par exemple, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Hollande. Peu de gouvernements acceptent que les institutions indépendantes aillent vérifier le respect de leurs obligations. C'est ce qu'il a dit, lui, François Hollande.
Oui, c'est vrai.
Jean Jouzel.
Moi aussi, j'insiste sur le fait que la nouveauté de cette conférence de Paris, ce sont justement les INDC. Le fait d'avoir demandé, c'était un pari, à Durban, de dire on va demander au pays ce qu'ils peuvent faire. Et personne n'aurait pensé, il y a 4 ans, qu'on aurait 185 pays à mettre sur la table leur contribution.
J'étais à Varsovie quand ça a été négocié. J'étais dans la meute, comme on appelle ça. Personne n'a pensé, en tout cas beaucoup de pays en développement, quand ça se négociait, c'était même pas Durban. Varsovie, c'était il y a 2 ans. On n'a jamais pensé qu'on serait aujourd'hui à plus de
180. J'entends bien, et je vous passe la parole tout de suite, Stéphane. Écoute, mais une fois encore sur ces INDC, les pays les moins avancés annoncent clairement qu'ils ne signeront pas d'accord si on est dans une limite de réchauffement à plus de 1,5 degré. Or, on est largement au-dessus.
Cette discussion sur les 1,5 degrés, effectivement, ça monte et c'est ce qu'on appelle au fait les négociations sur le long terme. Maintenant, j'aimerais quand même dire quelque chose. On est aujourd'hui déjà à 1 degré, 1,5 degré. On sait aujourd'hui que 2 degrés, ça va être très 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 difficile. Donc, faire reconnaître 1,5 degré dans l'accord, c'est un enjeu. Après,
une question de survie
pour certains pays, c'est vrai. Aujourd'hui, on a pris acte d'une chose, c'est à Copenhague, c'est que l'approche contraignante, dans le sens où il y aurait des engagements contraignants des pays, on peut le regretter, mais elle ne marche pas. Elle ne marche pas parce que, regardez par exemple, le protocole de Kyoto était contraignant. Le Canada a décidé de sortir du protocole. Rien ne s'est passé. Alors aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une base beaucoup plus importante de pays qui prennent, qui font des contributions. Donc, qui s'engage à faire quelque chose. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire comment on va faire augmenter cette base et comment on va faire augmenter les engagements de façon continue et de façon vérifiable, transparente, etc.
Bon, alors, tout le monde va intervenir. On va essayer de faire dans l'ordre parce que je sens que je vous ai bien énervé les uns et les autres. Je m'en excuse. Isabelle, Anne, et puis ensuite, Céline Affo. Si. Isabelle, Anne.
Alors, plusieures choses. D'abord, sur ces histoires de contributions nationales, c'est vrai que c'est facile de dire, quand on les additionne, on n'y est pas du tout. On est sur une trajectoire de plus 3 degrés. C'est vrai. ça, on va pas dire le contraire. C'est pour ça, d'ailleurs, que d'emblée, dans la discussion pour l'accord de Paris, on est sur une réflexion de mécanisme pour améliorer l'ambition très rapidement, là, dès qu'on sort de Paris, parce qu'on sait qu'on n'y est pas. Mais ça fera partie de l'accord, ces mécanismes, comment on fait, à partir de quelle année. Donc ça, évidemment, il y a un débat, sur quand est-ce qu'on va commencer à réévaluer ces ambitions. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que les INDC, les contributions nationales, ont eu plusieurs vertus, notamment celle déjà de mettre sur le plan national, domestique, une première réflexion sur l'atténuation, l'adaptation, la transition énergétique. Il y a énormément de pays sur les 183, je sais plus où on en est, j'ai pu regarder aujourd'hui combien de pays avaient rendu leur contribution, mais c'est quand même plus de 95% des émissions mondiales, qui ont eu une réflexion interne, politique, ils ont mis le sujet sur la table, il y avait énormément de pays qui avaient jamais réfléchi à ça.
Ouais, donc c'est un progrès. C'est Céline Affo et puis Jean-Joseph.
C'est un progrès. Et puis c'était ça, l'objectif recherché, c'était que tout le monde, toute la communauté internationale joigne l'acte à la parole. Avant les INDC, on était à 5 degrés. Aujourd'hui, nous sommes à 3 degrés. Il faut être à 1,5 degré. Donc, l'Afrique et beaucoup de pays en développement proposent un processus en 3 temps. OK, nous avons fait des contributions. On a fait un examen déjà, ça c'est le 2e temps. Il y a encore un fossé. Donc, 3e temps, comment est-ce qu'on remplit le fossé? Et là, maintenant, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être lancées, notamment le groupe africain a proposé une contribution 300 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030. Oui. Ça, c'est une contribution. Un mécanisme où les pays discutent entre eux. Mais le plus important à Paris, c'est que ce processus à 3 temps soit intégré dans l'accord. Si on me posait la question, quel est l'enjeu fondamental pour l'accord? Si l'Afrique avait une seule chose à demander, c'est ce processus à 3 temps. Contribuer, examiner, remplir le fossé. Et pas seulement pour l'atténuation, pour l'adaptation et pour les finances.
Jean Jouzel.
Oui, donc, je voudrais quand même dire, alors, où on en est pour les contributions? D'abord, il y a une difficulté que les gens évaluent peu, c'est-à-dire que les contributions, dans beaucoup de cas, sont conditionnelles par exemple, au niveau de développement, si on regarde celle de la Chine, de l'Inde, à l'efficacité énergétique. Et donc, d'abord, il y a un premier point, c'est que les contributions ne portent soit 2025, soit 2030. Quand on les regarde en 2030, en gros, on a à peu près accompli, enfin à peu près, hein, en étant un peu optimiste, la moitié du chemin qu'il faut faire pour, disons, entre ne rien faire et être sur une trajectoire proche de 2 degrés. Si on voulait être proche de 2 degrés, il faudrait 42 milliards de tonnes, on est plutôt vers 55. Si on n'avait rien fait, on irait jusqu'à 70. Bon, c'est déjà, ce que je veux simplement dire, elles sont déjà significatives pour beaucoup de pays. Hein, donc, c'est pas rien, ça correspond forcément à un changement de mode de développement. Alors, c'est pas suffisant, mais c'est pas non plus rien. C'est ça qui est très important. Ça, il faut bien noter ça, et c'est pour ça que moi je suis assez. Enfin, je pense que les INDC c'est un succès, mais effectivement il faut mettre en route une clause de révision. Moi aussi je suis très attaché, y compris à l'objectif 1,5 degré. Quand on regarde l'élévation du niveau de la mer, on comprend que certains pays y soient très attachés. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Mais c'est aussi très très difficile maintenant de rester en dessous de 1,5 degré. Il faut aussi malheureusement l'admettre. On en est dans ce schéma. Mettons-nous d'abord sur la route de 2 degrés.
On a commencé au moins. On a fait le premier pas.
La question des énergies. Rapport publié il y a 3 semaines de l'Overseas Development Institute, on apprend que les États du G20 soutiennent l'exploitation d'énergie fossile à hauteur de presque 500 milliards de dollars par an. Est-ce qu'on peut au moins s'attendre à ce qu'il y ait des mesures très concrètes, des signaux très clairs pour, sinon stopper, au moins réduire les subventions publiques à l'égard des énergies fossiles? Parce que une fois encore, ça c'est peut-être une chose qui est trop absente du texte. Isabelle Anne.
Alors, tellement absente qu'il n'y a pas une seule fois une occurrence du mot énergie dans l'accord de Paris, dans la nouvelle version de ce matin. Alors, parce qu'en fait, c'est quand même un peu tout le problème, c'est qu'on évacue totalement. On évacue. Oui, vous avez bien regardé.
J'ai des bons informateurs.
Hier à 22h. À 22h, je sais même plus. Hier à 20h, un certain nombre de pays africains ont envoyé un paragraphe au coprésident directement pour réaffirmer le droit à l'accès à l'énergie, aux énergies renouvelables et durables.
Et c'est qualifié de quoi? De durable?
Je suis en train de regarder ça.
Vous avez trouvé ou pas encore?
Je l'ai pas encore trouvé. Donc, au moins, ça a été envoyé. Le secrétariat l'a reçu. C'est sur instruction de chef d'État africain. Donc, ça va être dedans.
Non, là, pour l'instant, dans le draft, il y a écrit juste une référence à l'Atomic Energy Agency, hein, dans ce que je
vois. On va y arriver.
Attention, chacun notre tour. Stéphane, écoute.
C'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre, et c'est quelque chose qui est, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est que ces négociations, historiquement, portent sur les émissions et sur la réduction des émissions, après aussi sur les finances, sur l'adaptation. Mais on parle du problème climatique et du problème, en fait, de la transformation de nos sociétés, qui est quand même le centre du sujet, on en parle en termes d'émissions. Et c'est un problème. C'est un problème qui ne va pas être résolu à Paris, mais il y a de premiers pas. Il y a de premiers pas avec les initiatives sur les renouvelables, il y a des discussions sur la réduction des énergies fossiles, il y a des discussions sur les financements de développement, donc les banques multilatérales de développement, par exemple, comment faire pour que cela ne finance plus les énergies fossiles, ne finance plus les centrales à charbon.
Ou en tout cas, finance davantage les énergies renouvelables. C'est plutôt ça, la démarche.
Juste pour finir sur ce point, il me semble aussi important de comprendre que ces négociations, ce qu'on a ici, et c'est peut-être paradoxal de le dire ici, ne sont pas tout. Il y a des choses qui se négocient dans d'autres endroits et qui sont très importantes aussi.
Vous pensez à quoi?
Je pense par exemple à ce qui s'est passé il y a pas longtemps à l'OCDE avec de nouvelles règles au fait qui ne sont pas contraignantes mais qui sont importantes pour les crédits à l'exportation. Pour donc pour que il n'y ait plus de financement de centrales à charbon à partir de crédits à l'exportation. Mmh.
Jean Jouzel.
Oui, alors pour commenter sur les 500 milliards, j'aime bien donner des chiffres, bon, parce que les gens comprennent peut-être pas l'ampleur du chiffre ou en fait la non. Enfin bon, ce qui est important, c'est de regarder, disons, les économistes du GIEC ont analysé les scénarios du GIEC compatibles avec l'objectif de degrés. Alors ces scénarios, les caractéristiques en termes de flux d'investissement, de modification de flux d'investissement, ce qu'il faudrait faire pour rester sur des trajectoires de degrés, on va parler, donc c'est le premier levier, c'est l'efficacité énergétique, à peu près 600 milliards par an, ça on parle de la prochaine décennie, désinvestir effectivement de l'exploitation du charbon à peu près, et puis, enfin de l'exploitation des combustibles fossiles, puisqu'il faut en laisser au moins 80% là où ils sont, et à la fois de l'exploitation et de leur utilisation, sauf à développer le piégeage et le stockage du gaz carbonique, donc là aussi à hauteur de quelques centaines de milliards de dollars chaque année. Et puis donc les flux d'investissement varient peu pour ce qui concerne le nucléaire, mais dans tous ces scénarios il y a une petite part de nucléaire qui reste, et ce qui augmente évidemment de façon importante, il y a deux choses qui augmentent, c'est les investissements dans le renouvelable, là aussi à horizon 2030 de façon très importante, et on voit un monde avec une part d'électricité plus importante qu'elle ne l'est actuellement, par exemple pour la mobilité. Donc ça montre un peu, donc les 500 milliards de dollars, je veux dire, c'est aussi actuellement, il faut aussi dire qu'il y a à peu près 100 milliards de dollars de subventions aux énergies renouvelables autour de la planète. C'est beaucoup moins. Mais bon, voilà, l'argent existe. Si on supprimait tout d'un coup, l'effort à mettre est à peu près...
La transition, par exemple, on peut réorienter les subventions pour les énergies renouvelables, enfin pour les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Ça sera un mécanisme.
Comment ? Avec, par exemple, notamment le fameux prix carbone. On n'y est pas.
Il y a énormément d'innovations en termes de finances. Moi-même, en tant que co-président du comité permanent des finances, on parle même d'assouplissement quantitatif vert. C'est-à-dire, ça veut dire très simplement, on injecte de la liquidité. La banque centrale injecte de la liquidité dans le système en disant très clairement aux banques, en mettant une clause pour dire ça va aller pour accélérer la transition énergétique.
Et quid, Céline Info, de l'hypothèse qui avait été soulevée par François Hollande mais reprise par la Banque mondiale et le FMI avec cette idée du prix carbone? C'est encore là, on l'a vu très rapidement quelques minutes avant de prendre l'antenne, c'est dans les options, mais c'est en train d'être évacué en réalité.
C'est un des instruments, mais faut faire attention. Le marché carbone, malheureusement, c'est un outil dans la boîte à outils. On fait une fixation, malheureusement, sur le prix du, on fait une fixation sur le prix du carbone. Regardons l'exemple Kyoto. On a mis des marchés carbone en place. On a mis un prix. Mais comme il n'y a pas eu d'ambition, zéro. Je vais prendre un exemple tout concret. Par exemple, pour l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne ont une convention avec le Fonds monétaire international. Si l'État, je prends un cas, si l'État, quel qu'il soit, un État X, veut s'endetter pour financer une centrale solaire ou une centrale éolienne, elle lui coûte plus cher qu'une centrale à charbon, elle lui coûte à peu près deux fois. Les prix baissent, mais elle lui coûte peut-être deux fois plus cher. En termes d'impact sur son ratio PIB endettement, elle est mieux, le ministre des Finances est mieux de faire du charbon. Pourquoi ? Parce qu'à tous les six mois, une équipe du FMI arrive et va évaluer ce ratio. Donc il faudrait peut-être qu'on dise au FMI, pour les pays qui vont aller plus vers les énergies renouvelables. Donc il y a des petites choses comme ça qui veulent peut-être rien dire. Il faut aller en profondeur. Mais on fait une fixation en disant prix carbone.
Moi, je fais pas de fixation.
On le fait. Ouais. Le Nord le fait. La Banque mondiale le fait. Il ne faut pas faire de fixation sur un seul, encore moins le prix carbone.
Je voulais simplement franco-français, mais c'est vrai que l'injection de liquidité sur le développement des énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique est quand même un des axes de la campagne de Pierre Larouturou en particulier. C'est clair que avec l'idée d'injecter 1000 milliards de dollars à long terme, mais c'est clair qu'il y a des gens qui reprennent cette idée qui est effectivement très importante, simplement.
Stéphane écoute, et ensuite Isabelle Anne.
Quelque chose qu'il faut comprendre. On a mis en place au début des années 2000 différentes choses en termes de climat. Et quand on regarde aujourd'hui, Céline Info a raison de le souligner, on voit que le marché de carbone en Europe ses résultats sont quasiment nuls. Et il faut le dire comme ça. Ce qui a marché, par exemple,
mais c'est que ça disqualifie totalement l'outil.
Non, ça ne le disqualifie pas. Disons que ce qui est important, il me semble, c'est de regarder. Aujourd'hui, on est dans une situation différente parce que les renouvelables ont augmenté. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on a fait que ces renouvelables augmentent? Et c'est finalement avec des politiques publiques très classiques, avec des subventions, avec une politique très volontariste de la part de certains pays qui sont allés de l'avant. Et ça a fait qu'il y a un marché pour les renouvelables, qu'ils sont devenus moins chers et qu'aujourd'hui, on peut en parler. Donc, au fait, je suis d'accord, il faut un éventail de politiques qui va des subventions, des politiques publiques jusqu'au prix de carbone.
Isabelle Anne. Je vous redonnerai la parole, Jean Jouzel. Je m'y engage. Vous allez voir. Et moi, je tiens mes engagements. Isabelle Anne.
On va vérifier.
Non, je voulais juste rappeler qu'aussi, ça s'inscrit dans un contexte que certains jugeront symbolique, mais quand même de désinvestissement des énergies fossiles. De nombreuses fondations, universités, de gros fonds de pension, de fonds d'État, comme le fonds norvégien, par exemple. Et ça commence à représenter de l'argent. Donc on est en train aussi, symboliquement, de délégitimer ce que c'est aussi l'argent qu'on se fait sur les énergies fossiles, comme on l'a fait un temps sur l'industrie du tabac, par exemple. Et ça, c'est certains parlent de lame de fond. C'est vrai qu'on n'est pas encore sur des mêmes échelles de valeur que l'argent investi dans le secteur fossile, mais on s'y rapproche de plus en plus.
Jean Jouzel.
Oui, on a des chiffres jusqu'à 3000 milliards de fonds qui sont effectivement interdits. Mais moi, ce que je voulais dire.
Je vous en prie, allez-y.
Très, très brièvement.
Prenez votre temps, Jean Jouzel.
C'est bien les politiques publiques, tout ça, c'est bien. Mais, pour moi, la différence essentielle entre Copenhague et Paris, c'est quand même les progrès dans le domaine de la recherche, de l'innovation qu'on oublie. Et si on a avancé, c'est parce qu'on perçoit beaucoup mieux les solutions actuellement qu'on les percevait il y a 6 ans. Et la clause de révision n'a de sens que s'il y a un soutien très fort à la recherche et l'innovation, c'est-à-dire que si les coûts diminuent, et c'est ça qui va être aussi...
Et vous trouvez qu'en la matière, la COP21 est à la hauteur?
La COP21 n'intervient pas beaucoup sur la partie recherche, mais c'est vrai que c'est très...
Il y a eu par exemple Bill Gates qui est passé disant qu'il allait mettre 2 milliards sur la table. Ce qui va soutenir, c'est la recherche.
Oui, c'est très important de soutenir la recherche, l'innovation, parce que c'est comme, disons, le progrès se fera. La clause de révision n'a de sens que si on a beaucoup plus de visibilité sur les solutions à mettre en œuvre.
Il y a une chose qui est claire. Je pense que vous parlez d'agenda, de solutions. Une chose est claire maintenant, c'est qu'il n'y a pas que les gouvernements. Je pense que c'est très clair pour tout le monde que le secteur privé, les collectivités, aujourd'hui plus que jamais, les contributions, on essaye de l'ouvrir à l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est peut-être nouveau.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, toujours en direct de la COP21 du Parc des Expositions du Bourget. Quel climat à la COP? C'était notre grande série qu'on a entamée lundi. Et aujourd'hui, bilan d'étape à J-8 quand la diplomatie climatique patine, pourrait-on dire. En tout cas, quelques inquiétudes émergent ça et là ici à cette COP21. Cinquième et dernière étape de notre tour de cette COP en 5 jours avec vous, Tiffaine de Requinier et aussi Clément Salazar. Vous nous dévoiliez chaque jour les sentiers, les chemins de traverse de cette grande conférence. Aujourd'hui, on est avec vous, Tiffaine de Requinier, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors, les grandes religions, on disait, il n'y a pas seulement les gouvernements, les grandes religions se sont donné rendez-vous aussi à la COP pour tenter, elles aussi, de peser dans le débat.
Oui, quand on déambule entre les stands des ONG dans le vaste hall 4 du parc des expositions, on croise ici et là des comptoirs religieux ou spirituels, comme celui de la Buddhist Sushi Foundation ou celui de la Brahma Kumari University, des lieux de rencontre qui sont aussi des vitrines pour les cultes, et un moyen d'introduire une dimension éthique dans les discussions, c'est le mot qui revient sans cesse. Cela fait plusieurs mois, plusieurs années que les religions se mobilisent pour l'environnement. En juillet dernier, le sommet des consciences initié par Nicolas Hulot a fait date. L'encyclique Laudato Si du pape François, publié un mois plus tôt également. Ici, au Bourget, on peut même croiser des pèlerins climatiques, ces chrétiens qui ont parfois parcouru des milliers de kilomètres depuis plusieurs villes européennes pour manifester leur soutien à la planète. Martin Kopp est chargé de plaidoyer pour la Fédération luthérienne mondiale. Il le reconnaît, l'impact des religions sur les négociations est limité, mais l'important est d'abord de faire entendre une autre voix.
Bien sûr, pour nous, la question du changement climatique, avant même d'être une question géopolitique, technique ou technologique, économique, financière, est une question spirituelle et morale. Et ce, au sens large du terme. Alors nous, bien sûr, on définit les choses à partir de nos références, à partir des Écritures. Et on parlera par exemple de respect de la création, on parlera de respect du plus faible, du plus vulnérable, et en particulier des plus pauvres. Et ces deux piliers, respect de la création et respect du plus pauvre, sont les deux jambes sur lesquelles on se tient pour nous engager comme religion. Mais cette question-là, elle se pose du coup de façon plus large, aux athées, aux agnostiques. Et ça consiste à dire, attention, le climat est le révélateur d'une crise beaucoup plus profonde que simplement une crise du système énergéticien. C'est une crise de sens, une crise de civilisation. Et si on ne se situe pas à ce niveau-là du discours, eh bien, derrière, tout l'aspect technique et le discours aussi des ONG classiques ne portera pas ses fruits. À l'échelle du monde entier, la grande majorité de la population mondiale fait partie d'une religion et a des croyances religieuses. Et donc, si ces gens-là comprennent que du fait de leur foi, ou que c'est au cœur même de leur foi, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient hindous, peu importe, le respect de la nature et le respect des plus vulnérables est consubstantiel à leur pratique religieuse, on va faire vraiment bouger la société au niveau grassroots, on dit en anglais, au niveau des communautés, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que ça met les gens en route à ce niveau-là.
Faire bouger les communautés, les leaders religieux semblent tous d'accord sur ce point. En août dernier, une soixantaine de responsables musulmans a publié à Istanbul une première déclaration musulmane sur le changement climatique. Un geste historique salué par Ibrahim Saïdi. Cet imam norvégien d'origine gambienne y voit aussi une chance inespérée de montrer un autre visage de l'islam.
That declaration actually was a first giant step.
Cette déclaration était un premier pas de géant. C'était dans les COP précédentes auxquelles nous avons assisté à Varsovie et à Durban, une des choses qui nous avait tant manqué, d'avoir la voix des musulmans, la participation des musulmans. Donc, lorsqu'il y a eu la déclaration d'Istanbul, j'étais tellement soulagé. Ça a encouragé le travail que je faisais jusqu'ici seul. C'est une déclaration historique, une pièce maîtresse qui nous sert de guide pratique pour les questions environnementales dans le monde musulman, pour les gouvernements et les négociateurs musulmans. Tout ceci n'est pas mon étude. Je ne suis pas un expert, mais en tant que musulman, j'ai toujours senti que le Coran était intrinsèquement soucieux de l'environnement. Il est clair que nous, en tant que représentants de Dieu le Tout-Puissant, ne devons pas interférer et détruire l'équilibre qu'il a créé sur Terre, son écosystème dans l'atmosphère et dans chaque endroit que nous pouvons atteindre. Le concept de halal est très complet et je crois et ressens personnellement que manger et vivre halal, c'est protéger et conserver son environnement. Nous prenons garde à faire en sorte que ce que nous consommons ne soit pas ou ne devienne pas un déchet. Cela veut dire que vous n'êtes pas matérialiste, que vous n'êtes pas égoïste, que vous ne détruisez pas. Tout ceci est une partie de ce qu'est vivre halal et de la vie que devrait avoir un musulman. Nous engageant dans des problèmes comme le changement climatique créera l'opportunité pour nous de montrer au monde une autre dimension, plus profonde, plus réelle de ce que l'islam représente aujourd'hui.
I have not very long ago launched a similar movement in Norway.
J'ai il y a peu lancé un mouvement similaire en Norvège et je l'ai appelé Jihad Vert. C'est une lutte pour sauver et protéger la vie. Il s'agit fondamentalement de construire sur ce sujet une justice climatique et une conservation environnementale. Et j'y vois une occasion en or de présenter une image plus réelle de l'islam, loin de la violence, de l'extrémisme et loin du terrorisme qui est le diable, même pour l'islam. L'islam est totalement innocent.
Les mots d'Ibrahim Saïdi, venu représenter la communauté musulmane norvégienne ici à la COP. À quelques mètres de là, derrière son comptoir, Debra Boudreau, représentante de la Buddhist Sushi Foundation, distribue des tracts sans relâche. À ses côtés, Jayanti Kirpalani, l'ambassadrice de Brahma Kumaris, ce mouvement spirituel né en Inde dans les années 30, loue quant à elle les vertus de la méditation. Elle ne dira pas les noms, Florian, mais certains négociateurs seraient venus profiter d'un instant de contemplation avant de retourner ragaillardi dans la bataille des concertations.
Merci beaucoup, Tiffaine de Rocchini. On peut retrouver, bien sûr, l'écho du Bourget sur le site internet de France Culture dans la page Culture Monde. Jean Jouzel, cette spiritualité climatique qui émerge ici à la COP21,
oui,
c'est important.
Je pense, oui, que l'initiative de Nicolas Hulot en France a été une bonne initiative. Moi, je me suis plus intéressé à l'audat aussi, donc j'ai fait des commentaires et je trouve que c'est vraiment remarquable par rapport, non seulement par rapport à l'aspect climat, mais par rapport à l'aspect développement en général, et c'est vraiment tous ces aspects du lien entre réchauffement climatique, pauvreté, est vraiment très très bien écrit, et je passerai ma matinée demain autour de cette encyclique.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, toujours en direct du Bourget pour cette COP21. On va accueillir pour clore cette semaine autour de cette grande conférence, cette grande messe sur le climat. On va accueillir une nouvelle invitée, la ministre déléguée à l'environnement du Maroc, Hakima El Ait. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous serez la future présidente de la COP22 qui se déroulera à Marrakech. Votre pays a été, on parlait tout à l'heure des engagements, votre pays a été le deuxième pays africain à avoir annoncé sa contribution pour la lutte contre le changement climatique. Le pays s'est engagé à réduire d'au moins 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2010. C'est un des engagements les plus ambitieux, si on regarde tout pays confondu. Mais ce que vous dites, c'est que si l'appui financier est au rendez-vous, on va pouvoir faire encore mieux du côté du Maroc. On imagine que, évidemment, pour beaucoup de pays d'Africains et pour le Maroc en particulier, la question du financement est très importante. Il y avait des espoirs, des ambitions très très fortes au début de la semaine. Vous êtes confiante aujourd'hui, Madame la Ministre?
Ben d'abord, merci pour l'invitation. Deux, je ne suis pas la présidente de la COP. Le Maroc serait le futur président de la COP. Et trois, nous avons effectivement déposé nos contributions. On était le deuxième pays arabe et africain avec 32% d'ambition, 13% non conditionné parce que c'est intégré déjà dans nos politiques publiques. Et les 19% étaient conditionnés par le transfert de technologie, renforcement de capacités
et
support financier. Maintenant, je voudrais également souligner que notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, a été le premier chef d'État lors des déclarations des leaders de ce monde à avoir augmenté les ambitions du Maroc le premier jour de la COP21. Et ça, c'est un signal extrêmement important et prestigieux pour notre pays, extrêmement important pour la communauté internationale qui se propose de réviser ses engagements dans 5 ans. Est-ce que je suis confiante? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait 2 ans que je suis sur ce processus de la COP et je peux vous dire que quel que soit le mouvement des politiques et des États, eh bien les citoyens ont bougé, le monde a changé, le climat change, mais le monde change aussi, la société civile change, les territoires ont apporté leurs engagements et ils ont déjà commencé à réaliser. Le secteur privé a déjà investi 550 milliards de dollars l'année dernière dans les énergies renouvelables. Le montant des investissements apportés par le privé dans le renouvelable était de 56% par rapport au total des investissements apportés dans le monde. Donc oui, je suis confiante et j'espère que les négociateurs suivront, que nos chefs d'État suivront et qu'on arrivera à un accord au niveau à la fin de la deuxième semaine à Paris.
Vous espérez, mais vous êtes beaucoup plus optimiste, par exemple, que l'ambassadrice sud-africaine, présidente du groupe G77 avec la Chine, qui disait « ça passera ou ça cassera sur la question des financements ». Elle doutait beaucoup.
Écoutez, c'est un engagement qui a été affirmé et réaffirmé par les chefs d'État qui se sont engagés textuellement devant le monde à respecter leurs engagements d'apporter, et je cite monsieur le président François Hollande, un minimum, le floor, le plancher des 100 milliards de dollars par an. Monsieur le président Obama a déclaré au monde entier qu'il reconnaissait sa responsabilité historique et qu'ils étaient prêts à financer. Donc moi, je suis optimiste. Je lis, je regarde ce qui se passe, j'écoute.
Et moi aussi, je lis et je regarde les formules. On a quand même deux visions qui s'opposent. On a en gros les pays riches qui disent ce qu'on voudrait retenir, c'est l'idée que les pays peuvent, ou ceux qui souhaitent participer peuvent le faire, et puis on a ceux effectivement qui disent mais non, c'est pas qu'ils peuvent ou qu'ils ont le droit éventuellement de le faire, c'est qu'ils doivent le faire. On a quand même deux visions qui s'opposent toujours.
Non. Je retiens ce que vous venez de dire. Il y a des pays qui peuvent et qui souhaiteraient le faire, ouais. Et ils sont les bienvenus pour le faire, mais il y a des pays qui se sont engagés à le faire et leur président ont bien confirmé qu'ils allaient respecter leurs engagements. Et donc, leurs négociateurs devraient suivre.
Je voudrais qu'on parle un petit peu du Maroc, si vous le voulez bien, Hakima El Ait. Le Maroc a lancé un grand plan vert en 2014 qui prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 42% de son mix énergétique d'ici 2030. Pour le moment, le Maroc reste très dépendant des combustibles fossiles qui sont en grande partie importés. Comment le Royaume du Maroc peut atteindre cet objectif ?
Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous disais tout à fait au début de l'émission. Sa Majesté a augmenté ce 42% à 52% en 2030 et donc a augmenté les ambitions. Nous avons un plan d'action de mise en œuvre de notre plan énergétique, aussi bien dans l'éolien que dans l'hydroélectrique, que dans le solaire. Nous avons déjà réalisé, nous n'attendons pas 2020 pour réaliser. Le Maroc a donné ses contributions entre 2015 et 2030. Ça veut dire que le plan d'action 2015-2020 est déjà intégré dans le plan d'action marocain, ce qui était une innovation. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, nous exigeons et nous demandons à ce qu'il y ait un plan d'action 2015-2020, un prêt 2020, qui va nous permettre de gagner le gap en température qu'on n'a pas pu remplir. Et donc, oui, nous sommes engagés et nous savons ce que nous faisons
Comment on va y arriver? On va beaucoup miser sur le solaire, hein, non, je crois, du côté du Maroc. Ben, vous avez été très sensible, j'imagine, à l'alliance internationale en faveur du solaire lancée par le Premier ministre indien Narendra Modi.
Absolument. Nous misons sur le solaire et nous avons assis une cohérence au niveau de la politique de l'État marocain en levant les subventions sur les énergies fossiles. Nous sommes l'un des rares pays qui avons déjà levé les subventions sur les énergies fossiles.
On en parlait tout à l'heure.
Pour que notre énergie solaire soit compétitive et pour qu'on puisse en faire un marché. Maintenant, nous ne pouvons pas être isolés dans notre marché. Le monde est un petit village aujourd'hui. Les changements climatiques n'ont plus de frontières. Ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de pays. Il faut que le monde suive, il faut que la communauté internationale suive. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on se débatte pour 100 milliards de dollars, alors qu'on est en train d'injecter 600 milliards de dollars pour subventionner les énergies fossiles. Nous comprenons, nous Marocains, parce que nous l'avons vécu, que c'est difficile sur le plan social pour certains pays, mais n'empêche qu'on peut espérer diminuer graduellement sur un échelonnement de 25% les subventions aux énergies fossiles, de 30%, de 40%, de 50%, et d'accompagner cette levée des subventions fossiles par un plan social. Et donc, je dis, le Maroc sait où il va, mais il ne faut pas qu'il y va tout seul. Il faut que la communauté internationale suive.
Jean Jouzel, le Maroc... Bon exemple
oui,
à suivre.
Je vous avais entendu, Madame la Ministre, la semaine dernière. Nous étions ensemble. J'ai eu le plaisir de vous écouter. C'est vrai que ce développement, en tout cas envisager des énergies renouvelables, est tout à fait remarquable dans votre pays. Ce qui serait effectivement souhaitable, c'est qu'elle s'étende à toute l'Afrique, parce que toute l'Afrique a ce potentiel énorme de développement des énergies renouvelables. C'est vrai que c'est un plaisir aussi de citer l'initiative de Jean-Louis Borloo, qui a mis beaucoup, de son énergie, après d'entendre. Il y a beaucoup à faire et il faut absolument que...
Qui était présent d'ailleurs au mini-sommet africain. Peut-être pas forcément invité d'ailleurs, mais il était là. Hein.
Il était là. Ouais. Donc voilà, donc non mais c'est important de le noter. Si dans, je veux dire...
Non mais je ne sais pas, il l'était.
Je ne sais pas.
Ah, voilà, moi non plus, je ne sais pas.
Je pense que si on ne peut pas... Je veux dire... effectivement, si l'Afrique ne se développe pas sur les énergies renouvelables, on n'arrivera pas à lutter à gagner la bataille des 2 degrés. C'est ça qui est important.
Il est un point extrêmement important que je voudrais souligner. Allez-y. Et c'est un appel à la communauté internationale. Vous êtes développés, c'est une chance pour vous. Mais la chance pour nous, c'est que nous avons tout à faire. Si vous regardez la carte des énergies à travers le monde, l'Afrique est une tache noire. Mais c'est une chance exceptionnelle pour l'équilibre carbone à travers le monde. C'est là où vous allez gagner ce gap et asseoir cet équilibre au niveau mondial des changements climatiques. Et donc, je pense qu'il faut investir sur l'Afrique en matière des énergies solaires.
C'est une info.
Premièrement, moi, je fais le vœu que Madame la Ministre facilite les négociations sur l'ambition près 2020. Ça, c'est très important. Le Maroc n'y va pas seul. Pour le Maroc, la question des énergies renouvelables va bien au-delà des contributions, si on veut, développement durable et climat. C'est une question de macroéconomie, c'est une question de balance des paiements. Le ministre des Finances du Maroc comprend très bien l'intérêt qu'il y a d'aller vers des énergies propres, développement, enfin création d'emplois. Et l'Afrique, justement, a lancé un plan d'action pour 300 gigawatts. 300 gigawatts, nous avons lancé ici à Paris pour les 10 premiers gigawatts. Nous allons travailler de maintenant à Marrakech pour avoir un plan d'action concret. 300 gigawatts, c'est la contribution de l'Afrique.
Et Marrakech, ça sera en novembre 2016. Merci beaucoup, Hakima El Haïté.
C'est moi qui vous remercie.
Ministre délégué à l'environnement depuis...
Je suis ministre chargé de l'environnement et ministre délégué auprès de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement. Et ben
voilà, merci. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec c'est nous moi. Ce matin. C'est Nina Faux, porte-parole de l'Afrique à la COP21, Jean Jouzel, vice-président du GIEC, Isabelle Anne, journaliste à Libération, notre partenaire le vendredi, et Stéphane Écoute, votre ouvrage « Gouverner le climat », c'était aux presses de Sciences Po. Et puis aussi un grand merci pour toute cette semaine à toute l'équipe de Culture Monde, Tiffaine de Rocchini, Clémence Alézard, Charles Le Gargasson, mais aussi nos amis de la technique, parce qu'il faut des ministres, il faut des négociateurs, il faut des scientifiques, mais il faut aussi des techniciens pour faire des émissions de radio, Pierre Quintard, Laurent Serin, Fabien Gosset, Jean-François Daguin. Dans un instant sur France Culture, c'est la grande table avec Caroline Brouet, mais juste avant de la retrouver, comme chaque jour depuis le début de cette semaine, La Vie Moderne, le Parlement sensible, 5e épisode, rapport parlementaire de Éric Chevillard. Très belle journée et à lundi prochain.